Bonsoir à vous, une saison au théâtre avec François Regnault. Nous avions envie ce soir de vous soumettre une parole. C'est celle d'un homme qui œuvre dans l'ombre du théâtre. Il n'est pas metteur en scène, il n'écrit pas de pièces, il ne dirige pas de lieu, mais pour beaucoup, il est une référence et une caution intellectuelle. François Regnault est écrivain, dramaturge, traducteur. Il a collaboré avec Patrice Chéreau. Il a co-dirigé avec Brigitte Jacques-Bachmann, que nous recevions il y a peu, le Théâtre de la Commune à Aubervilliers. Il accompagne depuis longtemps le travail du metteur en scène Emmanuel de Marcy-Motta. Enfin, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous le recevons ce soir, c'est un très fin connaisseur de la psychanalyse et notamment de l'œuvre de Jacques Lacan. Pour nous tous qui aimons le théâtre, il est clair que les scènes théâtrales ont tout à voir avec les scènes de l'inconscient. Alors, quel est ce lien étroit qu'entretiennent la psychanalyse et le théâtre? Voilà la question qui nous a poussé à inviter au micro d'une saison au théâtre jusqu'à 21h, François Regnault.
On a eu la bonté de me présenter. Je vais entrer dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. Je serai reconnaissant aux personnes qui sont à la périphérie, de me signaler de la façon qui leur conviendra, si on m'entend bien. Comme je n'aime pas énormément cette sorte d'ustensile, je l'ai mis sous ma cravate, mais si par hasard ça fait un obstacle, ayez la gentillesse de me le dire. On entend ? On n'entend pas.
On entend, demande Jacques Lacan lors d'un séminaire à l'université de Louvain. On n'entend pas, ajoute-t-il, tout en rajustant son micro sur et non pas sous sa cravate. Bonsoir François Regnault.
Bonsoir.
Ce soir, c'est vous que nous allons entendre dans une saison au théâtre. Vous êtes, je le disais, une éminence grise du théâtre français. Et vous étiez, je ne l'ai pas encore dit, mais vous êtes désormais à la retraite, maître de conférence au département de psychanalyse de l'université de Paris 8. Ça a duré fort longtemps, quasiment 30 ans.
Hein. Oui.
C'est bien ça. Alors voilà qui nous met en appétit. Nous qui avions envie de vérifier la nature du lien qui existe entre théâtre et psychanalyse, on va donc s'en remettre à vos lumières pour éclairer ce lien. En espérant que nous allons nous entendre bien, François Regnault. Et pour commencer, une première question. Comment s'articulent chez vous ces fonctions de traducteur, dramaturge, écrivain, collaborateur artistique de femmes et hommes de théâtre et cette autre fonction, cette autre part de vous-même qui est totalement liée à la psychanalyse ?
Ça ne s'articule pas du tout, puisque on m'a souvent demandé la question théâtre et psychanalyse. Enfin, je me suis souvent trouvé devant la nécessité de répondre à cette question. Et à chaque fois, bien que j'ai énormément de choses à dire, à chaque fois, je recommence à zéro et je me dis, mon Dieu, quel est déjà le rapport entre le théâtre et la psychanalyse? Souvent, je ne trouve pas. Et alors, dans un style très lacanien, on pourrait très bien dire, il n'y a aucun rapport entre le théâtre et la psychanalyse, ou l'un est l'envers de l'autre, ou l'une est le contraire de l'autre, etc. Bon, mais je vais tout de même entrer dans des choses un petit peu plus convaincantes que de trouver qu'il n'y a pas de rapport. Mais vous savez...
Ah sinon, il n'y a pas d'émission, on est mal.
Lacan avait inventé qu'il n'y avait pas de rapport sexuel, et alors, s'il n'y a pas de rapport sexuel, encore moins entre le théâtre et la psychanalyse. Oui, une phrase de Lacan qui est très simple, il dit « Notre expérience est entièrement fondée sur quelque chose qui ressemble beaucoup à la catharsis ». Alors, j'introduis tout de suite ce mot, puisque catharsis est un mot, comme on sait ou comme on ne sait pas, peu importe, qui vient d'Aristote, qui se traduit par tantôt purgation, tantôt par purification. Purgation, c'est un sens médical. C'est le lavement, finalement. Purification, c'est un sens moral. On devient plus pur. Et la meilleure traduction qui est donnée par les bons traducteurs, c'est épuration. L'épuration des passions. Alors, non pas l'épuration au sens horrible. Oui. Mais le fait que le théâtre montre des passions, peint des passions. Et ça, mon Dieu, on peut dire depuis le début jusqu'à la fin, même si on appelle ça des sentiments, des affects, des drames, tout ce que vous voudrez, et essaye de les corriger ou du moins de les apaiser ou de les exciter au contraire. Et là, les discussions vont bon train depuis au moins Aristote jusqu'à nos jours, jusqu'au dernier livre d'ailleurs de Florence Dupont qui s'en prend à cette à Aristote vampire du théâtre, comme elle dit. Et c'est l'idée que très simple, qu'on trouve aussi chez Freud, lorsque Freud parle du théâtre, que les affects ont besoin de s'exprimer, de se déployer, de cracher. Il fait une comparaison très simple entre le fait qu'on éclate de rire, entre, après tout, aussi l'éjaculation, après tout ce qui est de l'heure de l'éternuement, du rejet, de la décharge des pulsions. Et auquel le théâtre, toutes opérations un peu médicales, un peu corporelles, un peu morales, un peu mentales et finalement tout à fait esthétiques, auquel le théâtre donne lieu. Et alors évidemment la tragédie, les larmes, la comédie, le rire, au fond ce sont des choses très élémentaires et on va au théâtre pour cela, on ne va pas au théâtre pour autre chose que le plaisir qu'on y prend. Et, c'est la grande doctrine classique, on va au théâtre pour son plaisir, la grande fonction du théâtre c'est de plaire.
Mais quelle est cette alchimie étrange, François Regnault, qui fait que le théâtre peut mettre le spectateur au contact des souffrances et parfois même, on l'a vu ces dernières années, de souffrances physique, tout en ménageant chez lui le plaisir esthétique.
Alors là, évidemment, je prendrai un exemple très simple qui est chez Aristote. Il dit on aime beaucoup voir des cadavres à condition qu'ils soient peints. Enfin, je simplifie un peu ce qu'il dit, mais prenez simplement les godillots de Van Gogh. On admire des godillots qu'on admire chez Van Gogh et qu'on n'admire pas dans la réalité. Ouais. Sauf, après tout, fétichisme des godillots qui font... Mais enfin, là, vous voyez, on entre tout à fait aisément dans le domaine de la psychanalyse. Mais ce qui se produit, c'est que... là, je vais tout de suite recourir à quelque chose de Lacan, chez Lacan, qui est très beau. En quoi consiste la catharsis? Il donne un exemple très simple. La catharsis, pendant longtemps, pendant 2000 ans, à la Renaissance italienne, etc., chez Corneille, chez Racine, ça consiste évidemment à représenter des passions et à essayer de faire en sorte qu'on y prenne du plaisir parce que, là je reprends un argument de Freud, quand on est au théâtre, on assiste à des drames, mais on est bien content de ne pas en être partie prenante. On assiste à des catastrophes, à des meurtres, mais on est bien content de ne pas en être la victime. Et par conséquent, il y a une espèce d'étrange alchimie, comme vous dites, qui fait qu'on en sort content et comblé. Alors évidemment, c'est très contestable parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de dramaturges qui veulent au contraire qu'on en sorte exaspéré, indigné, excité, épuisé, malade, pourquoi pas. Mais il est clair que dans le très beau texte qu'il a écrit dans sa jeunesse et qui n'est publié qu'après sa mort, Freud, le texte s'appelle « Personnage psychopathique à la scène », Freud dit que quand on atteint trop la folie ou la psychose ou le psychopathologique, on n'en retire aucune catharsis. Et pour reprendre l'image de Lacan, la catharsis, il ne la traite pas tellement comme un processus médical ou pathologique, voire même psychanalytique, mais comme la vision d'une image qui tout d'un coup est d'une extrême beauté et qui, en même temps, dissimule une horreur plus fondamentale. Alors, le grand exemple qu'il prend, c'est évidemment l'exemple d'Antigone. Alors, je voudrais citer juste le passage du vers qu'il cite.
Allez-y,
beaucoup.
François Regnault.
Le passage du vers d'Antigone qu'il cite, et qui est le désir visible de la jeune fille lorsqu'elle est conduite au sacrifice. C'est-à-dire, le cœur regarde Antigone conduite au sacrifice, sur l'ordre de Créon, parce que elle a enterré son frère. Il fallait pas enterrer son frère, etc. Et elle va être quand même enterrée vivante. On lui donne de la nourriture un certain temps pour pas qu'on fasse croire qu'on va la laisser mourir de faim. Mais en réalité, elle mourra. Et au moment où elle est conduite au sacrifice, le cœur dit « Ah, mais quelle image admirable de la jeune fille aux yeux de vierge et dont le désir est visible sur ses yeux, elle qui va être conduite au sacrifice. » Et le cœur a commencé par « Oh, amour invincible au combat, ô Eros, anikate makan, ô désir, amour, la même chose. Enfin, le mot peut être traduit de ces deux façons. Invisible sacrifice, et d'une certaine façon, c'est la candide, la catharsis, c'est exactement ça. C'est cette image éblouissante, aveuglante, que nous avons du héros ou de l'héroïne, mais ça peut valoir aussi bien pour Édipe Proie au moment où il a les yeux crevés, mais ça peut valoir pour le roi Lear, pour Hamlet, pour qui vous voudrez, en principe. Cette image éblouissante qui cache quand même la torture, la mort, la déréliction, le désespoir et finalement le tragique, et qui pourtant nous apparaît avec cette espèce de beauté étrange qui la cache, qui la dissimule et qui la réserve et qui la refoule pendant un certain temps avant qu'elle renaisse. Voilà.
Alors Lacan va donc être le héros un peu récurrent de cette émission, héros un peu à la marge, mais dont les propos et la façon de s'exprimer, on l'a entendu en ouverture d'une saison au théâtre, excite, je trouve, totalement l'imaginaire théâtral. Je vous propose de le retrouver dans un autre de ces séminaires.
Bon, vous savez, ce que je vous dis là, moi, c'est parce que j'ai vu ça. Il y a une de mes patientes, il y a très longtemps, de sorte qu'elle n'entendra plus parler. Sans ça, je raconterai pas son histoire. Elle a rêvé un jour comme ça que l'existence rejaillirait toujours d'elle-même. Le rêve pascalien, une infinité de vies enfin, se succédant à elle-même, sans fin possible. Elle s'est réveillée presque folle. Elle m'a raconté ça, hein. Je vous assure que je ne trouvais pas ça drôle. Seulement voilà, la vie. Ça, c'est le solide, hein. C'est ce sur quoi nous vivons, justement. Moi, la vie, alors, dès qu'on commence à en parler comme telle, la vie, bien sûr. Nous vivons, ça c'est pas douteux, hein. S'en aperçoit même à chaque instant. Bon. Il s'agit de la pensée maintenant, hein. Prendre la vie comme concept.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
François Regnault, une réaction à ce que vous venez d'entendre,
puisque vous me faites le plaisir d'entendre cette conférence de Lacan que j'ai déjà entendue. Je n'y étais pas, mais j'ai déjà entendu cet enregistrement. Je dois dire
sur le site de l'INA.
À propos du théâtre, je suis tout à fait étonné, stupéfait, que si peu de spécialistes du théâtre, je ne parle pas trop des metteurs en scène ni des acteurs, mais quand vous lisez des analyses sur Shakespeare, Corneille, etc., je suis étonné qu'en France, du moins, ces textes, ces séminaires ne soient pas plus commentés. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait des commentaires absolument extraordinaires dans ces séminaires, de la tragédie grecque, Antigone, Édipe Proie, de Shakespeare. Il y a un entier séminaire sur Hamlet qui est un chef-d'œuvre, où il a lu toute l'érudition anglo-saxonne et autres. Ce n'est pas des élucubrations de psychanalyse appliquées à la mort moelle-neuve. Hein. Vous avez des analyses
du misanthrope de Molière,
de l'école des femmes de Molière, de l'éveil du printemps de Védekind, une très belle analyse du balcon de Genet et une analyse stupéfiante de la trilogie de Claudel, le pain dur, l'otage et le père humilié. Et j'en passe. Mais c'est tout à fait stupéfiant parce qu'à chaque fois vous avez une intelligence extraordinaire et j'aurai l'occasion de revenir à propos de la mise en scène peut-être sur son analyse de la première scène de l'Athalie de Racine. Alors là, je pense que l'expérience que j'ai, non pas comme metteur en scène, ni tout à fait comme acteur, mais au moins de ce qui se passe quand on fait des répétitions et quand on assiste au travail de réels metteurs en scène, comme ceux avec qui j'ai travaillé, les trois que vous avez cités tout à l'heure, et Dieu merci si je suis heureux que ce soit eux, eh bien, vous avez à chaque fois cette espèce de saisie, c'est cette théorie qu'il a à un moment du point de Capiton. C'est-à-dire, il analyse la première scène de l'Athalie de Racine. Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel. Il le commande très bien. Bon, Abner vient, il est au service d'Athalie, il vient dans le temple, le grand prêtre du temple cache l'enfant sacré qui va être l'héritier d'Israël d'une certaine façon, et il faut liquider Athalie qui est méchante, perverse, et qui a voué sa vie à un dieu étranger. Et à un moment, c'est une conversation de deuxième bureau presque, c'est-à-dire il faudrait que vous vous engagiez quand même pour défendre Athalie. Et à un moment, le grand prêtre lui dit « Je crains Dieu, dites-vous, je crains Dieu, cher Abner. » Et il dit à Abner « Je crains Dieu, c'est ça qui compte. » Et alors, tout d'un coup, Locke en fait un commentaire sur la crainte de Dieu, non pas du tout comme une invention de curé, comme il dit. Il dit « Personne n'aurait jamais inventé ça, il n'y a qu'un poète ou un prophète pour inventer une chose pareille. » Et la crainte de Dieu, c'est ça qui fait, au sens de ferrer, le soldat, Abner, et qui dit « Bah maintenant, je vais me ranger de votre côté et nous allons attaquer Athalie, etc. » Et ça finit, évidemment, par le massacre d'Athalie, sous une forme aussi effrayante que sa mère qui a été dévorée par les chiens. Tout le monde connaît le songe d'Athalie, c'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que il dit qu'à ce moment-là, alors il le fait entre le signifiant et le signifié, puisque il reprend les termes de Saussure tirés de la linguistique en disant que nous comprenons parce que nous trouvons un lien à faire entre le signifiant et le signifié. Sinon, le signifiant vogue à l'état pur et nous savons plus quoi dire, ou nous sommes seulement dans des signifiés qui s'en mêlent et on est peut-être à ce moment-là du côté de la psychose. Mais un bon névrosé, voire un pervers qui s'associe bien le signifiant et le signifié, Lacan prend l'image du point de Capiton. Tout le monde sait qu'un point de Capiton, vous prenez un matelas et vous avez des points de Capiton dans le matelas qui font la surface du haut et la surface du bas. Si vous supprimez les points de Capiton, toutes les plumes vont d'un côté ou elles vont de l'autre et rien et tout fout le camp. Mais dans le matelas, vous voyez un matelas traditionnel, hein, un bon matelas des familles où vous avez des points de Capiton bien placés, Lacan dit, mais finalement, ma crainte de Dieu, dans cette scène-là, c'est le point de Capiton. Or, prétend que quand un metteur en scène travaille convenablement, et je ne travaille qu'avec ceux qui travaillent convenablement.
Vous l'avez dit, vous le redites. Oui, voulez-vous que nous disions les noms, Emmanuel de Marcy-Motta, Jean-Jacques Vajman et
Patrice
Chéreau. Notre regretté Patrice Chéreau.
Et ce qui fait, c'est qu'à un moment, si vous voulez, entre le metteur en scène et l'acteur, mais aussi entre deux acteurs qui jouent entre eux, on trouve ce que les metteurs en scène appellent tout simplement l'enjeu. Or, l'enjeu, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Vous répétez une scène, c'est très beau, ils savent le texte, c'est magnifique, ils éprouvent des sentiments, c'est joli. Ça est convaincant, mais il ne se passe rien. Ça n'accroche pas. Et tout d'un coup, on n'écoute pas. On dort même, quand on est dramaturge comme moi, souvent on dit, laissons pisser le mérino, si vous voulez. Et tout d'un coup, ça s'accroche. Il y a quelque chose, on ne sait pas très bien pourquoi, mais donc c'est évidemment de l'ordre de l'inconscient, mais on a le sentiment que c'est là le sens de la scène. Or, ça n'est pas que les deux interlocuteurs, ou les trois interlocuteurs, ou les 30, s'il y en a 30, s'entendent bien, ou se comprennent, ou jouent bien. C'est qu'il y a un objet invisible, une cause du désir, on pourrait dire, pour parler comme Lacan, à propos de l'objet qu'il appelle petit a, qui fait que tout d'un coup, la scène a un sens. Alors, vous avez des pièces de théâtre dans lesquelles rien ne se passe. Vous avez des mises en scène dans lesquelles rien ne se passe.
Vous diriez de ces pièces de théâtre qu'il n'y a pas de libido à l'intérieur, François Regnault?
On pourrait dire ça. Non, mais c'est pas tellement le problème de la pièce. Parce que dans une pièce très mauvaise, une bonne mise en scène peut faire trouver ce point. Mais j'aurais tendance à dire, par exemple, quand vous avez des pièces, il s'agit pas de dire que dans les pièces de boulevard, il n'y a pas de point de Capiton, c'est pas comme ça. Mais quand vous avez un acteur qui cabotine, c'est-à-dire qui fait passer son moi, son art avant ce dont il est question dans la scène, alors, tout le monde est content, etc., mais il ne se passe rien. Or, j'ai toujours pensé qu'on pouvait appliquer la théorie du point de Capiton, que Lacan applique ensuite très précisément à la clinique, en pensant que quand le point de capiton n'est pas là, on est dans la psychose, que les névrosés ont des points de capiton, qu'ils se demandent même combien de points de capiton sont nécessaires pour qu'un sujet soit dans un état normal, entre guillemets. Je l'applique d'autant plus qu'il l'applique lui-même à une scène de théâtre, et il dit qu'il a cherché où l'appliquer, qu'en général, les psychanalystes citent Shakespeare. Hein. Shakespeare, ça se prête à toutes sortes de choses. Mais on ne va pas chercher une scène de Racine et surtout pas la scène d'Athalie. Et bien lui, le génie, il est allé chercher cette scène d'Athalie en disant que tout d'un coup, c'est une grande pièce parce qu'il arrive un enjeu essentiel qui est dans la scène. Et alors, il reste aux metteurs en scène et aux acteurs qui jouent cette pièce-là de le trouver au bon endroit ou après tout d'en trouver un autre.
Alors moi, je voulais vous faire entendre cet extrait, François Regnault, qu'on vient d'écouter de Jacques Lacan, pour une autre raison, parce que il raconte l'histoire de cette femme qui rêve que l'existence va rejaillir toujours d'elle-même, qui parle de ces infinités de vies qui vont se succéder à elle-même sans fin possible, et il dit, elle s'est réveillée, elle a pensé qu'elle était folle. Elle s'est réveillée presque folle. Et moi, je me dis, mais vraiment, l'infinité d'existence, l'existence qui rejaillit toujours d'elle-même, c'est bien l'une des raisons qui font que vous, moi et beaucoup d'autres, nous allons au théâtre. C'est bien ça qui nous rend addicts au théâtre. C'est cette capacité du théâtre à ressusciter les morts, à faire se côtoyer les vivants et les morts, les spectres et les vivants. C'est bien la définition même de la passion qui lie le spectateur à la représentation.
Oui, l'exemple qu'on pourrait prendre, c'est celui des parents qui racontent des contes à leurs enfants. Vous savez qu'il faut toujours leur raconter la même histoire et reprendre exactement les mêmes termes, et les petits garçons et les petites filles, si vous racontez le Cendrillon, le petit chaperon rouge, et que vous ne reprenez pas les mêmes termes, ils vous corrigent. Donc il y a un goût pour la répétition. Je suis pas tout à fait convaincu que ça aille dans le sens de la vie infinie de cette patiente qui semble être versée du côté de la psychose, là tout de même, parce que les vies infinies, etc. Non, je mettrais ça plutôt du côté de la répétition, qui est un concept fondamental de la psychanalyse pour Lacan d'ailleurs, et qui est que le goût de la répétition est quelque chose de profondément ancré, et que le théâtre joue évidemment là-dessus. Satisfait ce besoin-là. Avec l'idée tout de même, vous savez, les acteurs vous diront toujours, je ne joue jamais de la même façon. Ils vous disent pas tous, ils ne vous disent pas tous, mais il y en a qui sont contents de dire, je varie tous les soirs, etc. Je me rappelle très bien quelqu'un qui jouait le dîner de con, qui disait, moi c'est formidable, tous les soirs, j'arrive à trouver des nouveautés, tant mieux pour lui. Mais
ce que les auditeurs ne voient pas, c'est le petit sourire narquois de François Regnault au moment où il dit ça. À quel acteur vous pensez? Donnez-nous des noms. Pas de nom.
Pierre Villeray. Je l'ai entendu dire ça.
Jacques Villeray.
Je reconnais tout à fait qu'il était convaincu de le faire, et j'aime mieux qu'il ait joué comme ça plutôt que d'être à chaque fois désespéré en disant qu'est-ce que je vais encore jouer ce soir. Mais plus profondément peut-être que c'est ce goût de la nouveauté, ce goût d'être toujours nouveau tous les soirs, est fondé sur le fait que ça se répète aussi, bien sûr que ça se répète. Et c'est très étrange que on répète les représentations, mais on répète aussi avant la représentation, et ça s'appelle la répétition.
La répétition. Oui. Qu'est-ce que vous diriez, François Regnault, justement, de l'acteur et de son pas de deux avec son propre inconscient? Parce qu'il y a quand même une chose assez étonnante, qui est que l'acteur vient sur un plateau théâtre dire les mots d'un autre, ce ne sont pas ses mots, ce n'est pas sa langue. Donc ça va aussi altérer quelque chose qui est de l'ordre de sa voix. Comment deal-t-il, pardon pour ce terme un peu prosaïque, avec son inconscient? Vous qui les observez, les acteurs en répétition, qui les connaissez bien.
Là, je ne suis pas analyste, hein, mais je vais faire comme l'analyste qui relèverait que vous avez dit pas de deux. Et j'aurais envie de dire, il n'y a pas de deux, il y a toujours un trois. D'ailleurs, Lacan dit très bien, l'amour, il n'y a jamais deux personnes, il y en a toujours trois. Alors, quelquefois, c'est l'amant, la maîtresse, quelquefois, c'est quelqu'un d'autre, quelquefois, c'est Dieu, quelquefois, c'est le chef du parti, quelquefois, c'est Dieu, c'est quoi d'autre, enfin, tout ce que vous voudrez. Mais l'un des textes sur lequel je m'appuie souvent, c'est un texte anodin, apparemment anodin, c'est dans le séminaire sur Hamlet, où Lacan dit tout d'un coup, après tout, vous aimeriez savoir ce que je pense de l'art de l'acteur. Je rappelle qu'il avait épousé une actrice, hein, Sylvia Bataille, et qu'on voit encore dans les films de Renoir, et notamment dans La Sublime Partie de Campagne. Et il dit à un moment, je vais vous dire après tout ce que c'est que l'acteur, mais il le fait un peu comme ça, comme en passant, comme Goethe à Valmy, dit, ah ben je vais vous dire ce que c'est, une nouvelle histoire du monde commence aujourd'hui, puis après il passe à autre chose. Bon, la comparaison est un peu boiteuse, mais et il dit, mais finalement, comme vous le disiez, alors le texte de l'auteur, à supposer qu'on joue un auteur, fonctionne en effet comme l'inconscient de la pièce. Mmh. Mais comme il a une trilogie du réel, de l'imaginaire et du symbolique, il dit finalement le texte est du côté du symbolique, c'est-à-dire on a un très beau texte de Shakespeare, de Racine, de qui vous voudrez, Ionesco, tout ce que vous voudrez, et on dit ce texte, et l'auteur est mort, enfin il n'est pas là en tout cas, il est vivant ou mort, mais peu importe, il n'est pas sur la scène, et donc d'une certaine façon c'est l'inconscient de la pièce, mais ça c'est plutôt du côté du symbolique, parce qu'on va respecter le texte, on va bien le dire, on va l'interpréter, on va mettre les bonnes scansions, la bonne diction, etc. Et puis, il dit, il y a aussi l'imaginaire. Alors là, c'est le corps de l'acteur. Il le met du côté de l'imaginaire, c'est-à-dire le bras de l'acteur, la tête de l'acteur, ce que Platon appelait très bien la voix et les gestes. Vous savez, on a le sentiment que une fois que vous avez parlé des gestes et de la voix, chez presque tous les acteurs de tous les grands théâtres du monde, vous avez presque parlé de tout ce qu'on peut attendre d'un acteur. Et l'acteur joue le jeu avec son propre imaginaire qui est son corps. Mais ce sont les parties imaginaires de son corps, c'est-à-dire il joue avec un bras. Proust dit très joliment à propos de la Berma, un bras qui ne savait rien du rôle. Et c'est tout d'un coup que son vrai bras peut-être fait un faux mouvement qui n'est pas le bras au sens où, vous savez, au XVIIe siècle, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire. Alors, c'est un bras imaginaire, c'est pas le bras, le vrai bras qu'on a. Et puis la troisième chose, alors là, il met du côté du réel, et là, c'est tout à fait intéressant, et c'est original, l'inconscient de l'acteur. Et l'inconscient de l'acteur lui-même, c'est-à-dire toute son histoire, c'est-à-dire tout son inconscient. Alors, j'en avais conclu, déduit, que si vous n'avez que le symbolique et l'imaginaire, ou seulement l'imaginaire et le réel, ou seulement etc., on pourrait décrire d'ailleurs tous les acteurs. Un acteur dans lequel l'inconscient ne joue pas, le cabotinage est un peu fait de cet ordre. Un acteur qui joue en disant pas le texte, en disant absolument n'importe quoi, bon, le théâtre se défait, on pense que c'est un mauvais acteur. Et un acteur dans lequel le corps ne joue pas du tout parce qu'il est maladroit, gauche, etc. Alors il se passe rien non plus du tout. Mais ce que j'aime, c'est que Lacan trouve ici une trilogie, imaginaire, symbolique et réel. Exactement, d'ailleurs, je l'ai rapporté à ce que Louis Jouvet appelle très bien le sentiment, la phrase et la respiration. Mmh. C'est une toute autre problématique, mais enfin quand même. Et le sentiment, la phrase et la respiration, ça évite d'avoir ce face-à-face que l'acteur a avec son rôle, où vous savez, c'est finalement l'opinion commune, il est Hamlet, il n'est pas Hamlet, il ne peut pas jouer Hamlet, il n'est pas fait pour jouer Hamlet, quand on le voit, c'est Hamlet, etc. Cette espèce d'identification... pathologique, où je me rappelle très bien Giorgio Strehler dit, mais s'il y a que le personnage en face de l'acteur et l'acteur en face du personnage, c'est mortel, c'est psychotique, c'est de la folie, et ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Donc, alors, il me semble que les trois termes, on les retrouverait évidemment chez Jouvet, chez Stanislavski, Meyerhold, etc., chez tous les grands directeurs d'acteurs ou inventeurs de l'art de l'acteur qui se sont exprimés sur cette question admirable et infinie. Mais il me semble que là, la petite machine que j'ai mise au point fonctionne assez bien sur l'art de l'acteur.
J'aime beaucoup François Reynaud, et ça sera malheureusement sur cette remarque qu'on va devoir s'arrêter. J'aime beaucoup l'histoire de Proust et du bras de la Barma qui ne savait pas son rôle. Allez, on va se quitter avec une musique et avec encore un tout petit peu de Lacan à l'intérieur.
Je dis toujours la vérité. Pas toute. Parce que toute la dire, on n'y arrive pas. La dire toute, c'est impossible matériellement, sans les mots qui y manquent. C'est même c'est impossible que la vérité touche au réel.
« dernier extrait donc de Jacques Lacan, trouvé dans le film de Benoît Jacquot, Télévision. Merci, merci mille fois François Regnault d'avoir nourri une saison au théâtre de vos lumières psychanalytiques. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Marie Dalquier, Pierrick Monsigny, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent et vous souhaitent une très belle soirée sur France Culture.